La semaine dernière, Paul, on a évoqué ensemble, on a posé des questions sur des aspects formels de ces élections. Cette semaine, on parle du fond.
Oui, on va essayer de regarder que, en fait, si on repart des trois enjeux principaux, l'enjeu écologique, quel avenir veut-on laisser à la planète et à nos enfants ? L'enjeu social, comment qu'on veut répartir les richesses produites entre les différentes catégories de population de manière à faire société ensemble, et démocratie, comment choisir ensemble et non pas se laisser décider par d'autres, on va s'apercevoir que selon les types de choix qui vont se faire, vont être relativement différents, quoi.
Justement, Paul, vous avez choisi plusieurs exemples pour illustrer ces différents choix qui sont laissés aux électeurs. Alors, premier choix, par exemple, c'est celui du rôle de l'État.
Oui, rôle de l'État par rapport à l'économie. On a le débat autour d'Airbus. Voilà un exemple qui est posé, par exemple, par rapport aux enjeux dont on avait vu, deux enjeux qui sont un petit peu contradictoires. Concernant Airbus, l'intervention pour favoriser Airbus, à la fois ça va jouer au niveau social, pour créer du boulot, pour distribuer des revenus, en même temps, investir dans l'aviation, c'est investir dans la pollution, c'est le moyen de transport qui pollue le plus. Vous voyez que les choses ne vont pas être relativement simples, ne sont pas très simples, et qu'on est confronté à un certain nombre de choix. Et c'est sur ce type de choix que chaque électeur est invité à se prononcer. Je vais prendre un autre exemple concernant les services aux personnes. Le service aux personnes, par rapport aux personnes âgées, par rapport aux enfants, c'est quelque chose qui apparaît comme un besoin social relativement important. Selon que, on va dire, le service aux personnes, c'est du domaine de l'action privée, c'est-à-dire chacun paye le service en fonction de ce qu'il peut, on aura des personnes âgées qui pourront être soignées, ce sera des personnes âgées qui ont un très très haut revenu, et les autres, eh ben, on reviendra au 19e siècle où les personnes âgées eh ben, mouraient dans des conditions un petit peu déplorables, dans des mouroirs, parce que les choix n'avaient pas été faits dans ce sens-là. Le logement social, si on laisse le soin au marché de faire le logement, je ne vois pas qui va investir dans le logement social. Créer des logements pour que des pauvres y habitent, qui ont des difficultés à payer des loyers, c'est rentable pour personne. C'est obligatoirement la puissance publique. Alors comment se positionnent les candidats par rapport à ça ? Autre aspect, et où on est aussi sur le domaine de à la fois forme de vie et l'aspect écologique, c'est la notion du temps libre. Le temps libre, c'est la possibilité de produire de la valeur en dehors de l'entreprise. On en a parlé au cours d'une émission entière. Lorsque je fais mon jardin, lorsque je m'occupe moi-même de mes parents âgés, de mes enfants, je produis de la valeur. Lorsque, dans mes temps libres, j'aménage ma maison, je construis éventuellement des choses dans ma maison, je produis de la valeur. Je ne produis pas de profit, mais je produis de la valeur. Le positionnement par rapport au temps libre, c'est un choix de société. Ce type de choix va aussi jouer au niveau écologique. Si la règle, c'est la règle du moins cher et du plus rentable financièrement pour le propriétaire, la main-d'œuvre la moins chère, elle n'est pas en France. Et l'intérêt, c'est de délocaliser. Mais délocaliser, ça aura une conséquence au niveau du social. Et délocaliser, ça a un coût écologique. Parce que ce qu'on consomme, si on l'a fait produire en Chine, eh ben, on pollue pour faire venir les choses ici. Et on sait qu'on polluera d'autant plus dans les productions chinoises parce que les normes seront moins, les normes de protection écologique sont moins rigoureuses que chez nous. C'est-à-dire que c'est un choix qui va à l'encontre d'un choix écologique.
Alors d'autres exemples, hein, toujours pour illustrer ces différents choix laissés aux électeurs, cette fois-ci dans le domaine de la protection sociale.
Oui, le coût des charges sociales, dont on nous parle énormément. Le coût des charges sociales, j'ai eu l'occasion de l'expliquer à l'émission, c'est du revenu différé qui est donné au travailleur, c'est-à-dire à celui qui produit de la valeur dans l'entreprise. Ce revenu qui est donné au travailleur par les cotisations sociales, actuellement, est payé, est pris exclusivement sur l'heure de travail. C'est-à-dire que plus une entreprise a de salariés, plus ça lui coûte cher. Et les entreprises qui ont le plus de salariés, le plus de main-d'œuvre, ne sont pas forcément les entreprises qui font le plus de profit. Les entreprises qui ont le plus de main-d'œuvre, c'est les entreprises du bâtiment, c'est les entreprises de la restauration, où les marges ne sont pas les plus fortes. Par contre, les grandes entreprises à fort taux de valeur ajoutée, celles qui font beaucoup plus de profit, c'est souvent des entreprises qui ont beaucoup investi dans la haute technologie et où il y a relativement peu de salariés. On peut envisager que le financement de la protection sociale soit payé sur les bénéfices, sur le profit et pas seulement sur le travail. C'est on est dans des choix de société.
Alors, une autre illustration, c'est celle des impôts.
Oui, alors, au niveau des impôts, là aussi, c'est intéressant de voir comment se positionnent les candidats. Alors, il y a les impôts sur les entreprises, et puis il y a, concernant les impôts sur la grande fortune, sur le revenu et sur la TVA. L'impôt qui est le moins remis en cause, c'est la TVA. Taxe sur la valeur ajoutée. C'est l'impôt que tout le monde paye toutes les fois qu'il achète un produit. Vous achetez un objet ordinaire, une brosse à dents. Quels que soient vos revenus, vous allez payer le même impôt sur cette brosse à dents. Par contre, quand on passe sur les impôts sur le revenu sont proportionnels aux revenus qu'on touche. Et l'impôt sur la grande fortune, c'est un impôt qui est payé uniquement par ceux qui ont des très grandes fortunes. Donc, entendre ce que disent les candidats sur les différents impôts, c'est ce que l'État a besoin. Par qui on va le faire payer? Est-ce qu'on le fera payer par tout le monde, c'est-à-dire d'abord par les pauvres? Est-ce qu'on le fera payer proportionnellement aux revenus? Est-ce qu'on le fera payer plutôt par les riches, en disant toute la richesse qu'ils ont disposée, il y a une partie qui doit revenir pour financer les besoins collectifs, c'est un sujet qui mérite d'être regardé de près sur ce que proposent les différents candidats.
Alors maintenant, dans le domaine de la loi?
Alors, dans le domaine de la loi, là aussi, la loi peut permettre de réguler un certain nombre de choses. Je pense, pour tout ce qui est spéculation boursière, qui est un handicap au développement de l'économie. L'entreprise ne sait pas ce dont elle dispose, puisque du jour au lendemain, le cours de la bourse peut lui faire perdre ou gagner de la valeur. On a cette loi dont même Chirac a dit qu'il était pour, mais qu'il ne l'a jamais mis en place, sur la taxe, sur l'équivalent d'une sorte de taxe Tobin sur les mouvements de transactions. Mais concernant la loi, actuellement, ces dernières années, ce qui a permis le plus de gagner de revenus est lié à aucune production de valeur, c'est dans l'immobilier. C'est-à-dire le fait que je sois propriétaire d'une maison me permet d'avoir un droit à un revenu qui augmente sensiblement plus que celui des autres sans que je travaille, sans qu'il n'y ait aucun travail de fait sur la maison. Ce n'est pas la maison qui a pris de la valeur. La maison, elle a perdu de la valeur en vieillissant. Et pourtant, au niveau financier, elle a pris de la valeur. Et si je suis propriétaire, je me suis approprié de la valeur alors qu'il n'y a pas eu de production de valeur. La loi peut limiter ce type d'effet. On a, sur des choses comme ça, on a entendu parler du départ de Johnny parce qu'il ne voulait pas payer d'impôts. Et on dit, on ne peut pas laisser partir. Il faut arrêter de faire payer des impôts. Parce que si on fait payer des impôts, les gens vont partir. Par rapport aux immigrés, par rapport aux personnes qui ne sont pas françaises, on a un petit peu de poids de mesure. Johnny Hallyday veut décider de ne plus être français. Il part. S'il vient en France, il est immigré. Si un immigré du Gabon vient en France, on va lui demander de faire une demande pour rentrer. On va étudier son dossier. On va voir si on lui donne l'autorisation. On va voir pour combien de temps. Ça va lui prendre un certain nombre de mois, d'années avant qu'il puisse venir en France. Le statut de Johnny Hallyday, s'il quitte la France, la loi fait qu'il peut vivre en France un jour sur deux dans l'année. La moitié du temps, il peut vivre en France. Sans payer d'impôts. Il part sans payer d'impôts. Il vient quand ça lui chante. Et comme c'est des gens qui ne veulent pas payer, c'est des gens qui ont énormément d'argent, ils peuvent tout à fait venir en France, habiter dans un hôtel, la majorité de leur temps, sans qu'ils ne soient dérangés par personne. La législation peut demander aux personnes de choisir. Et que Johnny n'ait plus envie de venir en France, de vivre en France, c'est son choix, ça ne me gêne pas. Qu'on lui donne toutes les faveurs des Français et puis qu'il ne paye pas d'impôts, alors que la majorité de ses revenus, il les a payés par des Français qui le payent, c'est quelque chose qu'on peut jouer sur l'impôt. On peut jouer sur, par la loi pour faire en sorte que ce type de choses ne se produisent pas.
Alors, dernier exemple hein, donc, pour illustrer les différents choix, donc, cette fois-ci dans le domaine de la démocratie.
Alors, bon, dans la démocratie, je verrai deux domaines. Il y a comment se positionnent les candidats par rapport à la représentation en France. Entre autres, l'aspect majoritaire fait qu'une majorité de personnes peuvent ne pas être représentés au Parlement s'ils ne sont pas dans les deux grands partis majoritaires. Et il y a tout l'enjeu des proportionnels en France, du rôle du président de la République et du rôle des députés qui est objet de débat dans un certain nombre de milieux, entre autres sur l'idée de est-ce que la Ve République n'est pas complètement dépassée et qu'il n'y a pas nécessité de revoir le système de représentation en France. Ça, je crois que c'est un aussi. Un des critères qui permet de choisir concernant la démocratie. Un autre critère, ça va être concernant le positionnement par rapport à l'Europe. Et ça, c'est relativement important, puisque les députés français, 70% de leur activité consiste à mettre dans les lois françaises des directives européennes. Les directives européennes, c'est des choses qui sont dictées au niveau de l'Europe et les députés français doivent mettre en œuvre. Alors, comment se sont positionnés les candidats par rapport à l'Europe? J'ai entendu à la fois Strauss-Kahn, à la fois Sarkozy, à la fois Ségolène Royal dire que les taux dictés par la Banque Centrale Européenne étaient trop élevés et étaient un handicap au développement économique. Ce que je partage. Ce qu'il y a, c'est que ces mêmes personnes, il y a au moment du traité constitutionnel, nous ont dit il faut constitutionnaliser que la Banque Centrale Européenne soit indépendante des partis politiques. C'est des élus qui nous demandent de faire en sorte que ce soit des technocrates qui décident à leur place, qui nous disent ce que décident les technocrates ne nous va pas. Mais ils ne sont pas obligés de donner leur pouvoir aux technocrates. Si on les élit eux, c'est pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et je pense qu'il y a tout le débat au niveau des institutions, sur qui décide. C'est les élus qu'on élit. C'est à eux de décider. Et toutes les fois qu'ils refilent les décisions à des technocrates, c'est de leur responsabilité et c'est à eux qu'il faut rendre compte, demander des comptes.
Paul, merci. On va peut-être évoquer le sujet des prochaines séquences pour comprendre et débattre.
Alors, maintenant, on va peut-être essayer de regarder... Mais concrètement, quels sont les grands courants de pensée, quelles sont les grandes écoles qui apparaissent dans cette campagne électorale ?